soir. L'Union démocratique africaine originelle, partie membre du rassemblement, ne croit plus en l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre 60 jours après sa signature. Le président de ce parti de l'opposition estime que la majorité présidentielle est en train de rouler le rassemblement dans la farine. De ce fait, il invite le rassemblement à repenser autrement sa lutte pour avoir les élections et arriver à l'alternance à la tête du pays. Quelle lecture faire de cette déclaration? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois Honorable Claudel André Loubaïa. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de l'Union démocratique originelle, UDA,
africaine originelle,
voilà, partie membre de la plateforme Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement.
Et membre de la dynamique.
Merci honorable. Honorable Crispin Ngoï, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député national et président du parti politique, cadre du parti politique RUDEC, aussi communicateur de la majorité présidentielle. Professeur Félicien Kabamba, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Vous êtes professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
L'UDA, Union démocratique africaine originelle, ne croit plus en l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre 60 jours après sa signature. Le président de ce parti de l'opposition l'a déclaré hier, Claudel André Loubaïa, qui estime que la majorité présidentielle est en train de rouler le rassemblement de l'opposition dans la farine, invite ce dernier, le rassemblement donc, à repenser autrement sa lutte pour avoir les élections et arriver à l'alternance à la tête du pays. On l'écoute au micro d'Innocent Olinga.
Je pense qu'aujourd'hui, le rassemblement est dans l'obligation. Au lendemain des obsèques ou avant les obsèques du président Étienne Tshisekedi, de se retrouver dans une grande assemblée extraordinaire pour faire l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord, pour faire sa propre auto-évaluation, sa propre auto-critique et repenser la lutte autrement. Parce qu'à cette allure, nous risquons de ne pas connaître les élections avant ou au plus tard le 31 décembre 2017, comme prévu par l'accord de la Saint-Sylvestre.
Et qu'entendez-vous par repenser la lutte?
C'est revoir nos stratégies. Je crois qu'aujourd'hui, le rassemblement, dans tout ce qu'il est en train de faire, est en train de subir plutôt que d'anticiper. Il subit la pression de la majorité et n'anticipe plus dans ses actions. Et nous risquons, à la fin, d'être rendus responsables par le peuple de l'échec, alors qu'en réalité, c'est la majorité qui nous mène dans la barque.
Voilà, il est également sur ce plateau, honorable Claudel André Loubaïa. Vous êtes président de l'UDA originelle. Nous venions de vous suivre tout à l'heure. Honorable, pourquoi vous ne croyez plus en l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre 60 jours après sa signature?
Merci Alain et Rung. Je voudrais vous remercier à travers vous, Radio Okapi, pour l'honneur que vous me faites de venir clarifier la déclaration que j'ai faite hier, mais aussi la confirmer ici. Je voudrais préciser, avant de commencer, ce que l'accord du 31 décembre 2016. C'est quoi cet accord? C'est un compromis qui a été trouvé entre les forces politiques réunies au centre interdiocésain. Et cet accord a été dicté par le fait que les institutions à mandat électif, en commençant par le président de la République, arrivaient à terme, notamment pour le président de la République le 19 décembre 2016. Et après lui, ça devait être le cas de l'Assemblée nationale, c'est intervenu tout récemment au mois de février. Et que face à ce vide créé par le fait qu'il n'y a pas eu élection comme prévu par la Constitution, il fallait le combler. C'est à ce titre que le rassemblement a négocié de bonne foi un accord avec la majorité présidentielle pour assurer au pays une paix des braves, bien entendu, à la date du 19 décembre 2016 et au 31 décembre 2016, à l'expiration du mandat du président de la République. Et cet accord est quoi? Cet accord, c'est une garantie pour l'alternance que nous n'avons pas obtenue en 2016 par la mauvaise foi de la majorité présidentielle qui n'a pas voulu organiser les élections.
Alors, une garantie pour l'alternance, en quoi ou comment la majorité vous roule-t-elle dans la farine?
Aujourd'hui, il y a des faits établis qui démontrent que la majorité est manifestement opposée à la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Je peux citer trois cas. Un, la décrispation politique, qui passe, un, par la libération des prisonniers et le retour des exilés. Ils sont toujours là. Jean-Claude Muyambo, maître Jean-Claude Muyambo, est toujours en prison. Moïse Katumbi est toujours à l'étranger. Ils attendent le go de Kinshasa qui ne vient jamais. Deux, la libération des médias proches de l'opposition. Citez-moi un seul média qui ait été libéré. Trois, la cessation des tracasseries fiscales. Mais l'hôtel de l'honorable Martin Fayoulou est toujours verrouillé par les juges. Donc il y a autant de faits qui demandent. La nomination du Premier ministre, pourquoi ça traîne? Parce que le nom du Premier ministre est connu. La voie pour qu'il soit nommé est connue. Pourquoi tout cela traîne? Nous avons voulu, à l'UDEA originelle, tirer la sonnette d'alarme pour dire qu'à cette allure, la majorité est en train de nous pousser à la faute. Alors qu'en réalité, les faits sont là, l'accord est là. Et il ne faut pas que le rassemblement viole l'accord, non, en proposant trois noms comme le demande la majorité, non, plutôt un seul nom comme c'était déjà établi par l'accord.
Peut-on considérer, honorable, que vous ne vous entraînez pas qu'à la majorité, mais également au rassemblement, où il y a une certaine léthargie, vous demandez même que le rassemblement puisse repenser sa lutte en revoyant ses stratégies. Est-ce qu'il n'y a pas également un problème du côté du rassemblement?
Bon, d'abord, je ne m'en prends pas à la majorité, non. Je tire la sonnette d'alarme, j'alerte l'opinion sur le fait que 60 jours après, la majorité n'a pas encore posé un seul geste de bonne foi pour démontrer sa prédisposition à faire appliquer l'accord.
Et que le rassemblement continue à tergiverser aussi.
Le rassemblement ne tergiverse pas. Vous savez, nous sommes éplorés depuis le décès inopiné du président Étienne Tshisekedi. Le rassemblement est en train de se réunir. On ne remplace pas une icône par un rassemblement. Non, il faut beaucoup de méthodes, il faut beaucoup de choses à faire pour arriver à établir sa succession. Et ça va se faire très rapidement aussi.
Alors,
mais ça ne peut pas être la cause du blocage.
Mais on sent déjà que l'après Tshisekedi pose véritablement beaucoup de problèmes au sein du rassemblement, où il y a déjà, d'après plusieurs sources, deux courants. Un courant qui veut qu'on s'en tienne à l'esprit de Genval et un autre qui veut la restructuration du rassemblement. On sent que c'est déjà le début de la fin.
Les membres du rassemblement, les différents responsables du rassemblement sont conscients des attentes de la population dans cette plateforme, le rassemblement. Ils sont conscients de la nécessité d'honorer la mémoire du président Tshisekedi en préservant l'unité et la cohésion du rassemblement. Et les divergences existent dans toute famille politique et même aussi dans tout foyer. Mais ces divergences ne sont pas aussi grandes au point de conduire à l'implosion du rassemblement.
Et vous les mettez sur la place publique?
Elles ne sont pas mises sur la place publique, pas du tout.
Merci. Honorable Crispin Goyi, vous êtes cadre de la majorité présidentielle, communicateur également de cette plateforme. La majorité est en train de rouler le rassemblement dans la farine.
Merci beaucoup pour l'invitation d'abord. Et Crispin Goyi est aussi secrétaire général chargé de la politique au sein du parti RUDEG. La majorité présidentielle n'a pas de sac de farine sur lequel il devrait rouler les gens. Ce que nous entendons, nous allons essayer un peu de clarifier les choses telles que le peuple congolais doit les entendre. L'objectif poursuivi par ce qu'on appelle comme dialogue, c'est trouver les voies et moyens qu'il faut pour organiser les élections libres, transparentes et surtout apaisées.
Et pour l'alternance aussi.
Non, ça je ne connais pas. L'ordonnance qui a signé, qui a convoqué ce dialogue, vous dit la société civile, l'opposition, la majorité, mettez-vous ensemble, analysez, trouvez les voies et moyens qu'il faut pour organiser les élections qui devront être apaisées. Voilà dans quel cadre il y a eu le dialogue qui s'est tenu à la cité de l'OUIA. À ce dialogue, le rassemblement avait boycotté. Et ensuite, le rassemblement s'est récupéré en réclamant encore un dialogue. Donc, c'était la continuité du dialogue de la cité de l'OUIA qui s'est tenu au centre interdiocésain. Et là-dedans, il y a eu un accord, bien sûr, qui est sorti le 31 décembre. Cet accord qui est sorti le 31 décembre est disposé et prêt à être appliqué aujourd'hui. Au sein de la majorité, il n'y a rien qui bloque. Tout le monde a suivi que dernièrement, les évêques ont fait le rapport au chef de l'État. C'était direct, tout le monde a suivi. Et aujourd'hui, si on n'a pas encore nommé le Premier ministre, puisqu'on attend qu'il y ait le président du Comité national de suivi de l'accord, qui doit ramener les candidatures auprès du chef de l'État pour que le chef de l'État puisse le signer. Et en plus de cela, l'accord ne remplace pas la Constitution. Et tout accord dans notre pays, tel que nous sommes là aujourd'hui, doit être élaboré dans l'esprit de la Constitution. C'est la raison pour laquelle on a demandé à ce que, comme on s'est entendu pour qu'il y ait l'opposition au sein du gouvernement, pour que le gouvernement prenne la direction de l'opposition à travers le Premier ministre, il faudrait qu'on puisse respecter l'esprit de la Constitution en présentant les trois candidats pour que le chef de l'État puisse désigner.
Contrairement à ce que dit l'accord que vous avez signé.
L'accord ne peut pas violer la Constitution.
Mais en signant, il y avait, vous connaissiez toutes ces dispositions.
Oui, les dispositions sont connues, mais on ne peut pas violer la Constitution.
Et vous,
puisque l'accord, elle est là, elle doit
respecter la Constitution. Vous reniez votre signature, en fait.
On n'a pas nié la signature. On voulait tout simplement appliquer l'accord dans le respect de la Constitution.
Alors, l'honorable Loubaïa a relevé trois cas en ce qui concerne les mesures d'allègement qui devraient entrer en application. Il a évoqué la décrispation politique avec la libération des prisonniers qui n'est pas encore effective, la libération des médias proches de l'opposition, la fin des poursuites fiscales qui continuent. Qu'est-ce que vous lui répondez?
C'est beaucoup plus clair. Puisqu'on n'amène pas le dialogue pour confirmer l'anarchie dans le pays. Ce n'est pas veut dire que puisque le dialogue est là, que les politiciens qui sont les hommes d'affaires doivent cesser de payer les taxes. Finalement, nous serons dans que le pays. Ce n'est pas parce que le dialogue est là qu'il faut permettre aux politiciens d'aller faire des gaffes. Les politiciens ne sont pas au-dessus de la loi. Quand un politicien commet des gaffes, il doit être poursuivi. Et le dialogue n'est pas une blanchisserie où vous allez faire des gaffes à gauche, à droite, vous entrez dans le dialogue pour que vous puissiez qu'on puisse vous blanchir. Non. Je crois que les choses sont tellement claires. Moi, je ne vais pas me mettre à citer les noms. On n'a pas arrêté quelqu'un arbitrairement. Je crois que le jugement se passe correctement. Il ne faut pas que les gens puissent, dans un pays, aller se cacher dans la politique pour faire des dégâts. Puisque quand on est politicien, on peut faire les affaires sans payer les taxes. Quand on est politicien, on peut aller voler les maisons d'autrui, puisqu'on est politicien. Mais tel que vous êtes là, moi, puisque je suis député, je viens, je vole votre maison.
Mais honorable,
et vous allez dire que non, que les dialogues viennent me blanchir. Mais ça veut dire quoi?
Mais tout ça, ça a été signé, hein?
Ça a été signé qu'il faut voler les maisons d'autrui?
Ah non, mais c'est paradoxal. C'est presque étonnant que vous remettiez tout ça en cause. Les mesures d'allègement, de décrispation ont été adoptées par
tous. Je vous dis tout
comment
ça,
vous expliquez ce revirement de la majorité?
C'est l'amalgame, l'objectif poursuivi de tout ce que nous appelons dialogue, c'est amener le peuple congolais aux élections apaisées. Il ne faut pas que, puisqu'on va amener le peuple congolais aux élections apaisées, que certaines personnes, certains malfaiteurs puissent s'habiller en costume des politiciens et se mettre dans le dialogue pour se libérer.
Et donc, selon vous, à qui est-ce que vous attribuez tout le retard dans la mise en application de l'accord?
Bon, les retards sont au niveau de du rassemblement. Du rassemblement, pourquoi? Puisque, est-ce que le rassemblement aujourd'hui a déjà désigné le président du conseil de suivi de l'accord, du comité de suivi de l'accord? Pas encore. Est-ce que les candidatures ont été déjà déposées? Pas encore.
Merci.
Alors, si tout est là et que plus de place, vous allez nous poser la question.
Merci, Honorable.
Donc, jusque-là, on n'a rien reproché à la majorité. La balle se trouve au rassemblement.
Merci, Honorable. Professeur Félicien Kabamba, je vous vois sourire. Comment vous analysez la déclaration de l'Honorable Lubaya? Vous venez de suivre la réponse de l'Honorable Crispin Goy de la majorité présidentielle.
Je remercie Alain. Je voudrais commencer par souhaiter bon anniversaire à la Radio Capi. Vous savez que devant l'obscurantisme politique dans lequel la RDC est plongée, la Radio Capi tient à allumer le flambeau de lumière. Et la Radio Capi, si vous voulez, sert aujourd'hui d'espace public au sens de Julian Habermas, c'est-à-dire un espace d'échange, un espace de discussion qui fait émerger la liberté et donc la démocratie. Et donc, parce que nous parlons de la démocratie, la démocratie est soumise à une rude épreuve aujourd'hui. Et je crois que l'alerte du député Claudel Lubaya son pesant d'or. Alors, pour parler de la réaction de l'honorable...
Avant, professeur, qu'on en arrive à la réaction de l'honorable Crispin Goy, est-ce que l'appel de l'honorable Lubaya ne confirme pas les craintes de certains analystes de voir le rassemblement s'émietter?
Ah, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. D'abord, pour parler du rassemblement, vous devez savoir que le rassemblement a ses caractéristiques. Il a ses forces, il a ses faiblesses. C'est d'abord, parmi ses faiblesses, vous avez une faiblesse organisationnelle. Ce n'est pas une plateforme qui est suffisamment bien structurée. Et cette plateforme est constituée de forces politiques qui, pour la plupart, sont dirigées par des figures politiques assez fortes. Et qu'il est donc difficile à gouverner. Et une autre caractéristique, c'est que le rassemblement s'était doté d'une structure plus ou moins centralisée, et cette structure centralisée pouvait mieux fonctionner avec un leadership qui n'était pas contesté. Et dès lors que ce leadership ne plus, eh bien, on a quand même des problèmes, on aura beaucoup de problèmes au niveau de gouvernance de cette structure. Vous avez également le fait que le rassemblement ne doit pas être analysé en termes d'une force politique porteuse d'idéologie. Son programme politique reposait sur l'idée de lutter pour une alternance des politiques et démocratiques en 2016. Évidemment, cela a glissé vers des négociations politiques qui finalement s'enlisent aujourd'hui. Mais vous avez aussi le fait que le rassemblement est un agrégat qui réunit des acteurs qui ont des ambitions très différentes. Vous avez
une conjonction d'intérêts divergents,
des motivations et des orientations politiques extrêmement donc divergents, et du coup les chemins et les moyens pour y en arriver sont tout à fait différents. Cela peut expliquer évidemment la difficulté que le rassemblement a à se restructurer aujourd'hui, ce qui fait que tout cela réunit, parce qu'on ne va pas toujours dire que tout vient de la majorité, le rassemblement a aussi sa part de responsabilité. Tout cela réuni fait qu'aujourd'hui, on est dans plus ou moins une impasse. Une impasse dont, évidemment, la majorité ne peut pas se dire qu'elle est en dehors. Non, la majorité est à l'origine de la crise actuelle. La crise actuelle vient de la non-organisation des élections en 2016. Tout part de là. Et donc, à partir de la non-organisation, la majorité a une stratégie. Quelle a été la stratégie? Nous n'organisons pas des élections et après, nous allons appeler au dialogue. Et donc, à partir du moment où ils appellent au dialogue, c'était donc un rendez-vous du donner et du recevoir. Mais qu'est-ce que la majorité a donné et qu'est-ce qu'elle a reçu? Et donc, la majorité voulait, si vous voulez, recevoir la reconnaissance par l'opposition que le chef de l'État va rester en fonction jusqu'à l'élection du prochain chef de l'État. Il me semble bien que cela, ils l'ont reçu. Ils l'ont reçu. Alors, l'une des erreurs commises par le rassemblement, c'était, parce que je parlais de rendez-vous du donné et du recevoir, mais qu'est-ce qu'eux devaient donner? Ils ont donné, ils ont mis sur la table le partage de pouvoir. Ils ont dit, oui, nous avons géré le pays pendant tout ce temps seul, mais pour la période de transition, nous allons partager le pouvoir. Et pour le partage du pouvoir, d'ailleurs, nous vous accordons la primature. Mais acceptez que le chef de l'État reste. Et donc, du coup, il y aura un accord et l'opposition va s'empresser à signer l'accord, laissant la question du partage du pouvoir à ce qu'ils vont appeler arrangement particulier. Et aujourd'hui, au niveau des arrangements particuliers, c'est ce que l'honorable André Claudel Louvaille a dit, il se rend compte qu'en fait, véritablement, c'est la majorité qui mène le jeu.
Et il y avait aussi sur la table, professeur, des mesures de décrispation.
Ah, bien sûr, il y a eu des mesures de décrispation, parce que sur la table des négociations, le rassemblement n'a pas amené que le partage du pouvoir. Comme je vous ai dit, au sein du rassemblement, les motivations étaient également très différentes. Il y avait, au sein du rassemblement, des personnes qui trouvaient qu'il y avait d'autres choses à mettre sur la table au-delà du simple partage du pouvoir. Et c'est là qu'on a mis sur la table ce qu'on va appeler les mesures de décrispation. Et il m'a semblé que là encore, la majorité était d'accord, mais ce que la majorité recherchait principalement, c'était la reconnaissance par le groupe du rassemblement du chef de l'État comme pouvant rester au pouvoir jusqu'au prochain chef de l'État.
Et elle l'a obtenu.
Voilà.
Honorable Loubaya, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kananga.
C'est M. Zikimou, je vous appelle à partir de Kananga, précisément dans la province du Kassai Central. Apparemment, les rassemblements n'ont pas autre idée pour contourner la MP. Le président de l'UDA, M. Claudel André Loubaya, quand il avait signé, il ne savait pas que la MP roulerait les rassemblements dans la farine. Si le rassemblement est bloqué, qu'il laisse la majorité continuer et que Dieu nous donne une solution.
Voilà, j'ajoute cette réaction honorable Loubaya de Chibola Kamba, qui nous écrit également de Kananga, qui dit « Comment l'honorable Loubaya Mwena Congo peut douter de l'application de l'accord du 31 décembre 2016 et il invite le rassemblement à repenser autrement alors que lui fait partie de cette plateforme de l'opposition congolaise ? Des pareilles déclarations énervent le peuple congolais qui a tant souffert, honorable Loubaya. »
Merci Alain. Avant de répondre aux amis qui appellent de Kananga et que je salue en passant parce que c'est là mon fief électoral, je voudrais d'abord répondre à l'honorable Crispin Ngoyi que je découvre en fait pour la première fois dans ce studio et que je n'ai pas encore aperçu à la tribune de l'Assemblée nationale. Pour dire ceci, j'ai l'impression que l'honorable Crispin Ngoyi n'a pas pris le temps de lire l'accord ni encore la constitution, parce que apparemment lui il est dans un schéma qui n'est ni de l'accord ni de la constitution. Il fait simplement du blabla. La majorité a les points liés aujourd'hui par l'accord du 31 décembre, négocié et signé par ses principaux dignitaires.
Mais ce n'est pas l'honorable Crispin Ngoyi qui est le premier à faire de telles déclarations, honorable Loubaya.
C'est la stratégie.
Il y a d'autres cadres de la majorité qui ont le même discours.
Cela découle de la stratégie de la majorité, de continuer à brouiller les pistes pour ne pas porter la responsabilité qu'ils ont, celle de bloquer la mise en œuvre de l'accord.
Et que le rassemblement ne parvient pas à
le rassemblement est en train de s'organiser, de se restructurer après les dossiers du président Tshisekedi. Mais cela ne peut pas être la cause du blocage, parce que ce n'est pas la restructuration du rassemblement qui empêche la libération des prisonniers politiques. C'est pas la restructuration du rassemblement qui empêche que les exilés et autres soient autorisés à rentrer au pays,
mais qui donne quand même un prétexte à la majorité.
Pas du tout. La majorité est dans un schéma. La vérité, c'est que la majorité est dans un schéma. Elle est en train de bloquer tout ceci parce qu'à l'horizon, elle tient à forcer vers un référendum. Et nous le savons, c'est pour cela d'ailleurs que tout récemment, le ministre du budget, le ministre d'État au budget, a déclaré qu'il était impossible d'organiser les élections parce que ça demandait 1,8 milliard. Il a fallu qu'il y ait une levée de boucliers dans l'opinion pour que et le gouvernement et la CENI se rétractent pour dire ça ne demande pas autant, ça demande à peine 350 millions.
Alors, mais au niveau du rassemblement, honorable, vous demandez que cette plateforme puisse repenser sa lutte. Concrètement, qu'est-ce que ça voudrait
dire? Avant d'en arriver là, je voudrais également répondre à mon ami de Kananga, Vicky Muyaya, pour lui dire que je n'ai pas signé l'accord de la Saint-Sylvestre, mais je suis lié par le fait que je suis membre du rassemblement. Et donc, j'endosse toute la responsabilité de cet accord. Et c'est aussi pour ça que je dis, à la lumière de l'évolution de la situation aujourd'hui, le rassemblement est obligé, sera obligé, le moment venu, face à la mauvaise foi manifeste de partenaires en face, c'est-à-dire la majorité, de tirer toutes les conséquences. Mais cela, comme je l'ai dit également dans ma communication, le rassemblement aura le temps de s'auto-évaluer et d'évaluer la mise en œuvre de l'accord. Mais à ce stade, ça c'est une évaluation au niveau de l'UDA, nous notons que l'accord n'a pas encore été appliqué dans aucune de ses dispositions. Parce que tout ce que cet accord prévoit n'a pas encore été fait. La nomination, je voudrais répondre à l'honorable Kespangoy, la nomination du Premier ministre, c'est clair, il est dit que le Premier ministre est nommé par le Président de la République et proposé par le Rassemblement. Il n'est pas dit que le Rassemblement propose des candidats Premier ministre, ni ne propose trois noms des candidats Premier ministre. Non, le Rassemblement propose à la nomination le Premier ministre. Et cela a été déjà fait. Le nom du Premier ministre est connu, il ne reste que sa nomination. Et ce n'est pas parce que le rassemblement ne s'est pas restructuré que cela traîne. Et d'ailleurs, les évêques de la CENCO, qui sont parrains de cet accord, se sont prononcés sur ça en début de semaine, en tirant déjà aussi la sonnette d'alarme.
Merci, honorable. Honorable Crispin Goya, pour vous, cette réaction que nous allons suivre.
Alex Eko de Chikapa au Kasai. Le calcul de la MP était de maintenir coûte que coûte Joseph Kabila au pouvoir au-delà du 19 décembre 2016. Il fallait dans cette stratégie désamorcer la bombe de cette date fatidique. C'est ainsi qu'elle a participé au dialogue de la CENCO. Le fait de signer l'accord du 31 décembre sous réserve confirme qu'effectivement, il y avait un calcul politique et un manque de volonté de faire évoluer les choses autrement qu'en maintenant Joseph Kabila au pouvoir. Le blocage pour la nomination du Premier ministre est aussi l'expression de ces mêmes calculs. La disparition inopinée du président Tshisekedi n'a fait que renforcer ce calcul des faucons du régime qui veulent le maintenir au pouvoir même jusqu'en 2030. Donc, l'UDA a vu juste et son pessimisme est tout à fait justifié.
Honorable Crispin Goy, qu'est-ce que vous répondez à cet auditeur?
Je réponds à l'auditeur que je remercie. Dans ce sens que notre auditeur fait des déclarations et des confirmations gratuites. Tout ce qu'il a dit n'engage que lui-même et ce n'est pas fondé. Ce sont que les imaginations qu'il a tendance à parler.
Est-ce que la majorité, en se référant à ce qu'il dit, est-ce que la majorité n'avait pas pour seul but de laisser passer dans la paix la date du 19 décembre 2016 qui consacrait la fin du mandat constitutionnel du président Kabila?
L'objectif du dialogue, je le dis très bien, c'était de trouver les voies et moyens d'amener le peuple congolais aux élections apaisées. Effectivement, étant au pouvoir, on ne pouvait pas ne pas sécuriser le peuple congolais face à ceux qui voulaient semer l'anarchie. Il était tout à fait normal que nous puissions prendre les dispositions pour sécuriser le peuple congolais. Mais avant que je puisse arriver aux autres déclarations, je voudrais dire à l'honorable Claudel, d'abord, il est vrai que c'est la première fois que je me croise avec lui sur le plateau de radio au Capi. Mais bon, il est quand même étonnant qu'il ne m'ait jamais aperçu. C'est tout à fait normal. Je crois que le peuple congolais a suivi.
Voilà.
Bon, nous parle des absences aux plénières. Bon, ça, c'est un langage de lui-même.
Nous refermons très vite.
Nous avons refermé ça.
Voilà. Alors,
nous avançons.
Honorable Spengoy,
oui.
Est-ce que finalement, cet accord de la Saint-Sylvestre n'est pas en train de devenir caduc?
Bon, écoutez, l'accord de la Saint-Sylvestre, devenir cadique ou ne pas devenir cadique, ça, ça n'engage que le comité de suivi qui devrait nous le dire. C'est le comité de suivi qui est appelé, dont la mission est de suivre l'application, qui doit nous dire cela. Nous, on ne peut pas le dire. Mais ce que je voulais clarifier, c'est quoi? Il n'y a pas une confusion possible entre la Constitution et l'accord, tel que l'honorable Claudel venait de le dire. La Constitution est le clair, l'accord est aussi clair. Mais là-dessus, on n'a pas dit, selon ce que j'ai entendu ce qu'il a dit, on n'a pas dit le Premier ministre désigné par, mais c'est proposé par. C'est quoi que nous parlons français? Le chef de l'État nomme le Premier ministre proposé par, et non pas désigné
il
par.
Il est désigné par le Rassemblement. Il est désigné et nommé.
Voilà. Honorable Loubaïa, s'il vous plaît.
Et vous allez, il va suivre ça pour aller un peu regarder de côté. En plus de cela, la Constitution, nous ne pouvons jamais, j'ai dit et je le répète, l'accord n'est pas le remplacement de la Constitution. L'accord, c'est un groupe de politiciens qui se sont réunis. Ils ont analysé, ils ont estimé selon eux que pour aller aux élections apaisées, il faudrait signer tel qu'ils l'ont dit.
Mais on se souvient qu'à un moment, la majorité tenait un discours contraire qui s'en tenait pas pratiquement à l'accord de la cité de l'Union africaine et qui faisait fi de la Constitution pendant que l'opposition réclamait qu'on respecte la Constitution et maintenant c'est pratiquement l'inverse.
Non. Cette déclaration peut-être ne vous engage que vous-même. La majorité n'a jamais marché sur la Constitution pour s'appuyer sur l'accord. La majorité s'appuie sur le respect total, intégral de la Constitution.
La violation totale de la Constitution.
Non, la majorité n'a jamais violé la Constitution. Vous avez la Constitution qui est là, honorable, qu'il faudra respecter à tout prix. Alors, l'accord qui est établi doit respecter mot à mot les termes de la Constitution. Lorsqu'il va respecter les termes de la Constitution, c'est à ce moment-là qu'on va se retrouver dans la légalité constitutionnelle.
Quelle est la disposition s'il vous plaît, honorable Loubaïa, honorable Crispin Goyi, il y a l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito qui dit ceci, avec deux compromis politiques devenus presque caducs, la RDC se retrouve avec un gouvernement sans accord à côté d'un accord sans gouvernement. Face à ce blocage, il craint l'avènement par effraction d'un troisième larron qui neutraliserait tout le monde et remettrait tout à zéro. Ainsi, il n'exclut pas la possibilité d'un troisième dialogue. Honorable Crispengo.
C'est l'analyse, comme tout scientifique peut émettre l'analyse. Il a analysé, il a constaté et il s'imagine que ça peut arriver. Donc je crois que cette analyse, je ne peux te le considérer que comme un conseil qui doit aller et du côté rassemblement et du côté majorité pour que dans l'ensemble, nous puissions donner les élections apaisées au peuple congolais.
Merci professeur Félicien Kabamba. Il y a également pour vous cette réflexion qui nous vient de Kolwezi.
Professeur Ignace, depuis Kolwezi dans le Lualaba, tant que le rassemblement ne pourra pas résoudre en temps réel le problème de leadership, en se lançant encore dans un radicalisme, ouvrant aux autres une brèche, repenser signifierait pour moi modérer ses prises de position et faire de concessions mutuelles en interne d'abord, ou alors il faudra envisager une troisième voie, car cet accord sera à réadapter.
Repenser cet accord, professeur, est-ce qu'il faut réadapter cet accord? Est-ce qu'il faut un troisième dialogue, comme le propose l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito, étant donné que les deux seraient devenus caducs, selon lui?
Alors, un troisième dialogue, repenser l'accord, il me semble là que le paramètre temps n'est pas pris en compte. La population a réagi, avait déjà réagi, et quand vous regardez au niveau de la population, les accords ne semblent pas trop intéressés. Les accords, c'est une affaire de
politiciens.
De politiciens. Donc, pour la population n'a pas donné un mandat. A-t-il le mandat donné au président Kabila est arrivé à terme en décembre 2016. Donc, si aujourd'hui les politiciens s'entendent entre eux, cela ne concerne pas la population. Et donc, il faut là mettre au cœur du débat la question de la légitimité. La légitimité, c'est quoi? C'est la reconnaissance, n'est-ce pas, de votre pouvoir par la population, par la base. Et il me semble aujourd'hui que aucun acteur politique n'a une légitimité électorale. Il n'en a pas. Et donc, aller d'accord en accord, il me semble bien que nous allons baigner tous dans un chaos de légitimité. Et déjà, quand vous regardez aujourd'hui, la majorité semble appliquer ce qu'on appelle la théorie du chaos. C'est-à-dire, la théorie du chaos, qu'est-ce qu'elle dit? Les désordres créent l'ordre. On a comme l'impression qu'il y a, dans les désordres de la majorité, un certain ordre qu'ils vont créer. Et ça, c'est très dangereux. Parce que le chaos peut nous amener à quelque chose d'inattendu. Je ne suis pas en train d'appuyer l'idée d'un troisième accord. Il faut plutôt voir dans quelle mesure on peut mettre en œuvre cet accord. Par contre, la restructuration du rassemblement, il me semble bien que c'est quelque chose d'important. Parce que l'implosion du rassemblement rendra certaines dispositions de l'accord véritablement difficiles à appliquer. On vous dit, d'accord, que le Premier ministre est issu du rassemblement. Mais s'il y a 2, 3, 4 rassemblements, quelle est la branche du rassemblement qui présentera le Premier ministre? Et donc, vous avez là, véritablement, une situation de crise que la majorité pourra exploiter à bon escient.
Alors, professeur, je reviens sur la déclaration de l'ancien Premier ministre Adolphe Mozito qui dit craindre l'avènement par effraction d'un troisième larron qui neutraliserait tout le monde et remettrait tout à zéro.
Alors, ça, ce sont des craintes qui sont fondées sur ses propres projections. Et quand il voit les incertitudes autour des cogitations des uns et des autres, il y a là des craintes que tout le monde émet. Il émet les craintes. Nous tous, nous émettons des craintes. Mais il me semble bien que la personne qui pouvait trouver la solution au problème, c'est le chef de l'État, étant garant de la nation. Alors, tout le problème qui se pose là, c'est que le chef de l'État n'est pas la solution, mais il est le problème. Et il faut qu'il quitte du problème qu'il est pour devenir la solution. Et c'est là qu'il peut nous sortir de la crise.
David Loyoko, qui nous écrit de Kinshasa, dit: professeur, je suis pessimiste également dans l'applicabilité de l'accord de la Saint-Sylvestre, mais une chose est certaine, quand les deux parties ne s'entendent pas, la solution ne peut venir que de la médiation. Certainement, les évêques nous avaient rassuré qu'au cas où le plan A ne réussirait pas, ils vont appliquer le plan B. Où en sommes-nous avec ce plan B? Les évêques seraient-ils également à bout de souffle, professeur?
Non, mais je ne connais pas en quoi consiste le fameux plan B, je ne connais pas du tout, mais tout ce que je sais, c'est que nos amis de la CENCO sont allés voir le chef de l'État, parce qu'ils ont estimé qu'il avait des solutions à apporter devant le blocage. Et donc, il m'a semblé que, comme le chef de l'État devait être la solution, eh bien, en allant le voir, je crois que le chef de l'État l'avait déjà fait la fois passée, quand, au niveau de la majorité, les gens avaient dit que l'accord de la Saint-Sylvestre, c'était un échec. Ils avaient désavoué la CENCO. Le chef de l'État a, évidemment, reconduit sa confiance aux évêques. Et donc, il s'était montré, il avait pris de la hauteur. Alors, cette fois-ci, ils sont rentrés vers lui avec l'idée que les choses allaient encore avancer, comme c'était le cas par le passé. Et malheureusement, cette fois-ci, le chef de l'État est revenu sur les déclarations de ses représentants aux négociations et a dit, voilà, moi, vous devez déposer sous la table 3 candidatures. Voilà.
Honorable Lou...
Du coup, on s'est enlisé là dans un blocage.
Honorable Loubaya a repensé la lutte du rassemblement. Est-ce qu'il faudrait-il que cette plateforme quitte les négociations? Qu'elle fasse quoi en ce moment, ici et maintenant?
Vous savez, le rassemblement a été jusque-là très patient depuis le début des discussions au centre interdiocésain, en même temps qu'il s'est montré très coopératif pour faire avancer les discussions jusqu'au moment de la signature de l'accord. Accord contre lequel il y avait eu déjà une levée de bouclier 3 jours après sa signature, par un des secrétaires généraux adjoints de la majorité qui était sorti pour dire la majorité rejette l'accord, il faut un troisième dialogue. Donc le rassemblement est resté patient parce qu'il sait que dans cet accord il y a deux choses essentielles. Un, c'est que l'accord exclut toute possibilité de révision constitutionnelle pendant cette période. Deux, l'accord exclut toute forme de référendum pendant cette période. Et c'est pour cela que le rassemblement y tient et se montre patient pour que l'accord soit mis effectivement en œuvre. Mais face à la mauvaise foi manifeste de la majorité, je crois que le moment viendra où le rassemblement sera appelé à tirer toutes les conséquences.
Et c'est à ce moment-là
qu'il pourra repenser sa stratégie.
Et vous pensez qu'il n'est pas encore temps pour le rassemblement de tirer toutes les conséquences?
Toutes les voies de recours ne sont pas encore épuisées, mais comme je le dis, la patience aura ses limites et sûrement que le rassemblement se retournera à un moment où il ne pourra plus supporter. Et là, ça sera un recours au peuple pour que lui seul puisse trancher.
Alors le professeur Félicien Kabamba l'a dit, aucune autorité n'a une quelconque légitimité électorale. En ce moment, qu'est-ce que vous répondez à cette population qui vous suit et qui pense que et le rassemblement et la majorité ne sont là que pour lutter pour les postes et le peuple est tout à fait oublié?
Non, d'abord le rassemblement n'est pas allé au centre interdiocésain pour négocier les postes. Le rassemblement a négocié une certaine légitimité, une légitimation des institutions au-delà du 19 décembre, parce que en commençant par le président de la République, il perdait toute légitimité faute d'organisation des élections. Encore qu'il faille le dire, comme l'a dit le professeur, c'est que s'il n'y a pas eu élection en 2016, c'est pas à cause du rassemblement, c'est la mauvaise foi de la majorité qui n'a pas voulu qu'il y ait élection. Et donc les discussions au niveau de la CENCO ont amené le rassemblement à établir juste un accord pour qu'il y ait une préparation de l'alternance sans violation de la Constitution.
Et donc,
l'accord garantit les élections en 2017, avant ou au plus tard, fin 2017. C'est à cela qu'on doit arriver. Mais malheureusement, pour l'instant, je constate que la majorité présidentielle est en train de retarder les choses, est en train de bloquer la mise en œuvre de l'accord pour empêcher la tenue des élections en 2017 et éventuellement perpétrer un putsch constitutionnel qui pourra nous conduire à une éternisation du pouvoir, au pouvoir du président Kabila.
Merci honorable. Honorable Crispin Goyi, à Félix Moussaka qui dit « Toutes les parties prenantes au dialogue constituent un blocage de l'accord du 31 décembre 2016 car elles campent sur leur position, elle ne se soucie pas du peuple congolais qui continue à vivre dans la misère et l'extrême pauvreté. Elle ne privilégie que leurs intérêts et non celles du peuple. À l'allure où vont les choses, cet accord sera utopique, honorable.
S'il y a un groupe qui ne s'occupe pas du peuple, ce n'est pas la majorité en tout cas. La majorité présidentielle a ces soucis-là. Nous devons aller aux élections. C'était ça l'objet de l'ordonnance présidentielle. Nous devons aller aux élections et le plus vite possible. L'accord ne doit en aucun cas violer la Constitution. Cet accord ne peut pas interdire au peuple congolais de s'exprimer. Le peuple congolais peut s'exprimer librement. L'accord n'a aucun pouvoir. Puisque le peuple s'exprime de deux manières, il s'exprime soit par référendum, soit à travers ses représentants que nous sommes.
Et en guise de conclusion,
donc, voilà la cause. On ne peut pas empêcher le peuple congolais à s'exprimer. Ça serait la violation de la Constitution. En conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Que le rassemblement mette de l'ordre dans sa boîte. Que le rassemblement désigne le président du comité national de suivi. Et comme nous savons que le rassemblement n'est constitué que des partis, partis satellites qui sont accrochés à l'UDPS, je crois que tous ces partis doivent se mettre ensemble pour mettre de l'ordre.
Professeur Kabamba, conclusion.
Les déclarations de député Crispin Goyi invalident carrément l'accord.
Voilà.
Parce que là, dans l'accord, il est strictement dit qu'il n'y aura pas de référendum. Et donc, du coup,
ça veut violer la Constitution.
Les déclarations qu'il vient de faire tout à l'heure sont extrêmement dangereuses. Il me semble bien, d'ailleurs, que en demandant à l'opposition de désigner trois personnes, trois candidats, la majorité viole la Constitution.
Non.
Parce que nulle part dans la Constitution, il est dit que vous devez demander à l'opposition de présenter trois candidats au Premier ministre.
Merci. Messieurs, cette émission est terminée. Bonne suite au programme sur la radio de la
2018. Merci.